dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Merci Jean-Roger Billon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 15 novembre 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons donc des nominations du président élu Donald Trump. Le président élu Donald Trump s'apprête à mettre en place une nouvelle administration pour son deuxième mandat, une équipe qui semble radicalement différente de celle qu'il avait rassemblée la première fois. Pour les postes les plus stratégiques, Trump privilégie des loyalistes, des amis de longue date ainsi que des figures familières des médias conservateurs, notamment ceux de Fox News. Certains de ses choix sont des noms bien connus du public, tandis que d'autres surprennent et sont inattendus, non selon les observateurs, que peu d'expérience dans les domaines pour lesquels ils ont été nommés. Ces nominations mélange des figures rassurantes et audacieuses vise à réduire les rivalités et à renforcer l'efficacité de son équipe pour exécuter sa vision sans obstacle. Le président élu Donald Trump semble déterminé à éviter les erreurs du passé et imposer une équipe entièrement alignée sur ses objectifs politiques. Nous allons examiner avec nos invités les implications de cette nouvelle administration pour l'avenir des États-Unis. Et pour discuter de tout cela, nous avons comme invité ce soir Henri Désiré Nzouzi est avec nous depuis Bruxelles en Belgique. Vous êtes journaliste et analyste politique. Henri Désiré Nzouzi, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir.
Voilà, nous parlerons avec vous des implications donc de ces nominations. Ici à Washington DC, Calvin Dark est avec nous. Vous êtes analyste politique et cofondateur de RC Communication. Calvin Dark, bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Soyez les bienvenus dans l'Amérique et vous. À New York, nous avons l'historien et analyste politique Mohamed Bodge, professeur d'histoire à Manhattanville College. Bonsoir, Mohamed Bodge.
Bonsoir, ravi d'être ici.
Merci d'être là ce soir encore. Et je commence avec vous, Mohamed Bodge. Le président élu Donald Trump constitue donc petit à petit son équipe. Qu'est-ce que vous pensez des nominations effectuées jusqu'ici?
Je crois que votre présentation liminaire est complètement sur la cible. Donc, il cherche des loyalistes, donc les gens qui lui sont fidèles plutôt que des gens qui ont, disons, une pratique éprouvée. Ils ne cherchent pas aussi des, ce qu'on peut appeler des traditionnels professionnels du Parti républicain. Et ils cherchent un cabinet qui lui sera personnellement docile et loyal. Et de ce point de vue-là, c'est un peu l'unanimité des analystes lorsqu'ils regardent ces premières nominations.
Alors, Calvin Dark, à peine annoncé, certains noms de cette future administration font déjà débat. C'est notamment le cas de Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national. Si elle est confirmée dans ses fonctions, Madame Gabbard supervisera les 18 agences de renseignement du pays. Pourquoi son cas fait polémique à votre avis?
Oui, je crois que parmi ces surprises parce qu'ils ne sont pas vraiment des surprises. Toutes ces nominations sont parmi ce qu'on peut s'attendre de Donald Trump, parce que ces individus étaient à côté de Donald Trump pendant la campagne. Et je crois que maintenant, ce qu'on voit, et je suis complètement d'accord, du fait qu'ils cherchent la obéissance et ils veulent éviter les erreurs du premier mandat, c'est-à-dire selon Donald Trump, il ne veut pas l'opposition de l'intérieur de la Maison-Blanche. Et je crois qu'avec Tulsi Gabbard, il l'a fait pour deux raisons. Une raison, c'est qu'il veut donner l'impression qu'il coopère vraiment avec les démocrates parce qu'elle était membre du Congrès du Parti démocrate avant qu'elle ait changé à la républicaine. Et deuxièmement, il ne veut pas des individus connectés avec le deep state. Et je crois que Tulsi Gabbard, elle représente l'opposition au deep state parce que Hillary Clinton et les autres ont dit qu'elle est, elle travaille même de la part de la Russie. Et alors, je crois que pour cette raison, il y a une peur parmi la communauté de renseignement parce que si ces accusations sont vraies, elle dirigera toutes les organisations, tous les agents, avec tous les renseignements que nous avons. Et nous avons aussi, elle a des relations avec Bachar al-Assad et Poutine. Et alors, il y a beaucoup, beaucoup de raisons de craindre elle et avec les autres organisations aussi.
En tout cas, on verra bien tout cela lorsque cette équipe rentrera en fonction. Henri-Désiré Nzouzi, s'agissant de la diplomatie, Donald Trump a choisi Marco Rubio comme futur secrétaire d'État. C'est le sénateur des États-Unis de la Floride. Marco Rubio est actif dans les questions de politique étrangère, notamment concernant l'Amérique latine. Il est reconnu pour son plaidoyer en faveur de la démocratie et des droits de l'homme à l'étranger. Il a toujours adopté une position ferme face à la Chine et à Cuba. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix pour la diplomatie américaine?
Ben, on va dire que le choix de Rubio est beaucoup moins contestable que les autres. Et c'est vrai qu'avec ce que vous venez de décrire, il a a priori les atouts nécessaires pour se sortir de ce travail. Car il faut bien remarquer que dans la tradition politique américaine, des postes comme secrétaire d'État et à la Défense sont généralement confiés à des grands commis de l'État disposant d'une solide expérience. Rubio n'est pas du tout un inconnu et je pense que son profil posera beaucoup moins de problèmes que ceux qui ont été proposés dans d'autres fonctions. Je rappelle quand même qu'on a notamment des gens plusieurs fois visés par des enquêtes pénales. Hein. C'est le cas de Matt Gaetz qui est proposé au département de la justice. Vous avez un ancien journaliste sexiste et conservateur qui est reconnu aussi pour son opposition à la présence des femmes dans l'armée qui est proposé au Pentagone. C'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'au final, il faudra juger sur pièce et ne pas peut-être non plus dramatiser des choix qui, en réalité, répondent à une logique toute simple. Trump veut s'assurer de la loyauté de ses différentes personnes nommées. Je rappelle qu'entre 2016 et 2020, il a viré 4 chefs de cabinet durant son premier mandat. Donc c'est quelqu'un qui souhaiterait évidemment ne pas répéter les erreurs du passé, étant donné son appétence pour, je dirais, les changements brusques et radicaux.
Alors, parlant de Matt Gaetz, ce sera le procureur général. Il est député de la Floride. Il a été député de Floride. Gaetz est un fervent défenseur des causes conservatrices et un allié proche de Trump. Il siège au comité judiciaire de la Chambre où il défend la réforme de la justice et s'occupe à ce qu'il perçoit comme des abus de pouvoir de l'État fédéral. Mohamed Mbodj, de l'avis de plusieurs observateurs, Donald Trump, on l'a dit en début d'émission, a choisi de privilégier des loyalistes et des amis de longue date ainsi que des figures familières des médias conservateurs, notamment ceux de Fox News. Pourquoi, à votre avis, il a choisi cette option?
D'une part, parce qu'il se méfie du personnel politique américain traditionnel, que ce personnel soit d'ailleurs démocrate ou républicain ne change rien du tout. Et donc, deuxièmement, il se méfie des professionnels de carrière. Troisièmement, il a récupéré dans son premier mandat beaucoup de personnalités de l'époque de Bush, Bush 1 et Bush 2, Bush père et Bush fils. Et ces personnalités donc étaient compétentes, mais étaient très indépendantes et avaient leur propre ligne donc de pensée. Et je crois que cette fois-ci, il ne veut pas de personnalité forte et compétente qui soit indépendante. Donc c'est ce qui le pousse à effectivement attirer donc les gens qu'il a nommés. Et d'ailleurs, ce ne sont pas toujours des amis de longue date. Il y a des amis de quelques mois comme Elon Musk, qui est un ami tout à fait récent de Trump.
Tout à fait.
Donc et John Kennedy. Robert Kennedy Jr. Et n'est pas un ami de longue date, donc il ne faut pas dire qu'il privilégie seulement ses amis de longue date. Il fait un peu de panaché entre ses amis de longue date qui lui sont fidèles, qui l'ont soutenu depuis sa défaite de 2020. Et donc, ont entretenu donc son combat politique depuis lors. Et d'autre part aussi, d'autres personnalités chez lesquelles il a trouvé du mordant et qui lui ont amené donc ce côté propagande. Et il pense que ce que ces gens-là ont pu démontrer sur le plan de leur capacité oratoire, ils vont être capables de les démontrer sur le plan de l'action. Et c'est là où certainement il y aura une forte désillusion de sa part, du moins c'est ce que j'estime.
Vous avez parlé de Robert F. Kennedy Jr. et qui est donc nommé comme secrétaire à la santé et aux services sociaux. C'est un avocat et activiste environnemental. Kennedy est connu pour son travail sur les politiques vaccinales et la santé environnementale. Bien que controversée, il insiste sur la transparence et la liberté en matière de santé. Calvin Dark, beaucoup d'analystes pensent que ce deuxième mandat de Donald Trump sera différent du premier, en ce sens qu'on a l'impression qu'il a envie de réduire les rivalités et les départs qu'on a vus lors du premier mandat. Et le président Donald Trump veut renforcer l'efficacité de son équipe de pouvoir exécuter sa vision sans obstacle. Est-ce que c'est votre avis?
Oui, c'est 100% ça. Et je crois que ça serait bien pour nos chers auditeurs de vraiment répondre à la question de cette loyauté, cette obéissance. Pourquoi? Ça, c'était pas une question de politique. Parce que si c'était une question politique, je suis sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de républicains qui soutiennent la politique de l'administration Trump. Mais ça, c'est pas au centre de cette question de loyauté ou obéissance. Donald Trump, l'erreur, pendant le premier mandat, il voulait faire des choses contre la loi ou bien contre la tradition juridique, contre les normes. Et bien qu'il y avait des républicains comme Jeff Sessions, des républicains forts, il s'est rendu compte pendant le premier mandat qu'il faut la loyauté à Donald Trump, pas à la Constitution, pas aux lois. Et ça, c'est évident dans ses choix. Deux exemples. Matt Gaetz. Pourquoi il a choisi Matt Gaetz? Bien qu'il soit sous investigation pour ses propres crimes maintenant, parce qu'il ne va pas donner aucune opposition si Donald Trump veut faire quelque chose qui est contre la loi ou jusqu'à la ligne. Deuxième chose, Robert Kennedy Jr. Pourquoi? Un avocat, pas un médecin. Pourquoi? Il va diriger toutes les agences de la santé aux États-Unis. Parce que nous nous souvenons l'époque de COVID, coronavirus. Donald Trump, parce qu'il a dit qu'il était expert en tout, il voulait diriger et créer la politique pour coronavirus. Mais il y avait des oppositions de Dr. Fauci, des vrais médecins. Alors, avec Robert Kennedy Jr., avec Matt Gaetz, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas quelqu'un qui sont d'accord avec Donald Trump, mais au moment important, ils ne vont pas dire au président ça c'est illégal, ça c'est pas approprié, ça c'est pas, c'est contre la tradition. Alors je crois qu'il faut souligner ça. C'est ça pourquoi il veut loyauté et l'obéissance.
Alors, Henri Désiré Nzuzi, l'un des grands thèmes de cette campagne de Donald Trump, c'était l'immigration. Il a promis de mener une opération d'expulsion telle que jamais vue aux États-Unis, signalant qu'il y a entre 11 et 15 millions de migrants illégaux aux États-Unis. Et pour ce département, Donald Trump a choisi Kristi Noem comme secrétaire de la sécurité intérieure. Rappelons que les gouverneurs du Dakota du Sud, Noem est reconnu pour ses positions sur l'immigration et ses réponses locales aux politiques fédérales. Elle est une fervente défenseure de la sécurité aux frontières et des réformes de l'immigration. Alors Henri, Donald Trump pourra-t-il et définitivement régler cette question épineuse de l'immigration, à votre avis?
Alors, il en a fait son fonds de commerce, bien évidemment. On rappelle quand même que Donald Trump est contre l'immigration illégale. Donc, ce serait faire un mauvais procès que de dire qu'il est contre l'immigration. On est bien d'accord là-dessus.
Tout à fait.
Effectivement. Cela étant, il faut quand même rappeler que c'est un phénomène qui dépasse largement le cadre des États-Unis. Le pays étant attractif, bien évidemment, il y a depuis de très longues années, par vagues migratoires successives, des personnes qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet. Maintenant, si l'on veut criminaliser d'une certaine manière l'immigration illégale, comme cela semble avoir été, je dirais, présenté durant la campagne, il faudra des moyens colossaux. Je m'interroge sur ces moyens, d'où ils viendront, surtout lorsque l'on sait qu'un Elon Musk sera chargé notamment de veiller sur l'efficacité gouvernementale en traquant les gaspillages, en traquant évidemment les dépenses utiles, tout en sachant par ailleurs, au-delà de ce qui a été annoncé à travers les différentes nominations, qu'il appartiendra néanmoins au Sénat d'avoir le dernier mot pour valider ces différentes nominations. Sur le vote de l'immigration, c'est un très vaste chantier qui, à mon sens, prendra plus de temps que le simple mandat de Donald Trump. Je rappelle que dans 2 ans, nous avons les élections de mi-mandat. Traditionnellement, le président américain élu perd les élections au niveau local lorsqu'il y a ces élections de mi-mandat. Aujourd'hui, qu'il dispose de la majorité au Sénat et dans la Chambre des représentants, nous verrons comment les choses s'articuleront, mais a priori, il devrait avoir les moyens de sa politique, sauf si, évidemment, au sein de sa propre famille politique, il y a de bonnes consciences qui, je dirais, s'interposeront pour ne pas prêter le flanc à la critique.
Alors, Mohamed Bodj, parmi ces noms ou de personnes nommées, il y a quelques-uns qui sont des noms qui captent tout de suite l'attention. C'est, Henri le disait tout à l'heure, Elon Musk, qui est donc chargé de revoir la manière dont le gouvernement est géré avec efficience. Il y a également Susie Wiles, qui est chef de cabinet, assistante de longue date de Donald Trump. Wiles est une stratège, dit-on, politique, chevronnée, avec une expérience de gestion de campagne et en politique républicaine. Elle a joué un rôle clé dans les précédentes campagnes de Donald Trump. Il s'est dit que c'est une, je ne veux pas utiliser le terme, mais permettez-le, c'est une dame de fer. Vous pensez qu'avec Trump, les choses iront bien? Et pour ce qui est d'Elon Musk, d'aucuns se posent des questions sur la longévité de cette amitié. Combien de temps va-t-elle durer sans faire un procès d'intention à cette amitié? Mais les deux hommes viennent à peine de se connaître, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, il y a certainement une volonté de la part de président Trump d'avoir des gens qui ont de la poigne. L'un des thèmes d'ailleurs de sa campagne, c'était de dire que les démocrates avaient émasculé les États-Unis. Donc, connaît une dame de fer, qui serait l'équivalent, disons, d'un homme de fer, ne me surprend pas. Qu'il ait dans son cabinet beaucoup de jusqu'au boutistes ne me surprend pas. Un peu plus surprenant qu'il y ait beaucoup d'avocats qui l'ont défendu devant les cours, qui sont des professionnels et qui certainement, à un moment donné ou à un autre, certainement vont devoir faire des choix, car je les vois mal être ce qu'on peut appeler des béni-oui-oui de qui que ce soit. Donc il y a un panaché qui risque de détonner entre ces fortes perspectives personnalités qui ont leurs propres dérives, qui ont leurs propres peut-être pas objectifs d'ailleurs. Je pense que beaucoup d'entre eux cherchent simplement à avoir le pouvoir de changer les choses comme ils le veulent et comme ils pensent que Trump le veut. Mais d'une certaine façon aussi, il y a cette opacité de ce que Trump veut vraiment faire à ces gens-là. Et donc, il y a une large, une sorte de marge de manœuvre pour beaucoup de ces positions. Et on peut être surpris qu'il y ait des divergences très rapidement dans ce cabinet. Par exemple, Vivek Ramaswamy et Elon Musk, ensemble, je ne vois pas du tout comment cette mayonnaise, entre guillemets, excusez-moi du terme, va prendre. Et donc, je pense que il y a beaucoup de bruit sur la plupart de ces annonces. Mais lorsqu'on va au fond des choses, on se rend compte que même si tous ces gens-là sont confirmés, ce qui n'est pas le cas, il y a certainement des problèmes avec Matt Gaetz, par exemple, juste pour donner cet exemple. Et certainement, la traditionnelle chambre du Sénat va freiner des quatre fers certaines de ces nominations. Plus que la Chambre des représentants, qui sont élus tous les deux ans et qui risquent de payer les pots cassés si ça ne se passe pas bien. Et si le cabinet hésite, ce sont eux qui vont payer les pots cassés lors des prochaines élections. Je pense que ce cabinet est très intéressant à regarder pour l'instant. Et on verra bien là où ça va aller. Mais encore une fois, effectivement, le ton général, c'est que Trump cherche à placer des gens en qui il a confiance. Il pense qu'ils lui sont loyaux, qu'ils lui ont été loyaux et lui resteront loyaux. Il pense aussi qu'ils sont des gens qui ont des idées fortes, qui vont frapper l'imagination et vont permettre de faire bouger les choses. Et on verra ce que ça va donner.
Et puisque nous diffusons vers l'Afrique, Calvin Dark, je vais vous poser une question relative au vote des Noirs. Il semble, selon les derniers chiffres, qu'ils ont beaucoup voté pour Trump, en tout cas comparé à la dernière élection. Est-ce que vous pensez qu'on aura quelqu'un en haut poste dans la nouvelle administration avec Trump?
Oui, je crois qu'en tout cas, les Afro-Américains ont toujours voté pour Kamala Harris plus de 80%. Et c'est vrai qu'il a reçu davantage de soutien de la communauté noire aux États-Unis. Mais je crois que pour le cabinet, nous savons ce que Donald Trump pense des responsables noirs. Il y a nos places, c'est-à-dire il a dit ça même. Et alors, je crois que peut-être il y avait une place pour Tim Scott ou peut-être Byron Donald, ou, le représentant de la Floride. Mais peut-être pas. Donald Trump, il pense à Donald Trump. Et alors, je crois pas qu'il pense de cette manière de mettre des efforts derrière les requêtes de soutien qu'il avait fait pendant la campagne. Et je crois que c'est aussi important de voir dans les semaines et les mois qui viennent, qu'est-ce que c'est le rôle du Sénat dans les mains du Parti républicain. Parce que nous savons que dans notre système, le Sénat, ça fait partie du système pro et contre pro.
D'accord.
Et je crois que maintenant, on va voir si le Sénat va vraiment opposer des nominations de Donald Trump, surtout, par exemple, des médecins et des champions des vaccins du Sénat qui vont vraiment accepter le choix de Robert Kennedy Jr., peut-être Robert McGee.
Alors,
je crois pas.
Alors, il nous reste à peine une minute pour conclure cette émission très rapidement. Si vous le pouvez, Henri-Désiré Nzouzi, on voit l'Union européenne s'activer ces dernières semaines. Trump va-t-il couper les vivres s'agissant notamment de l'OTAN et que sera-t-il, qu'adviendra-t-il de la guerre en Ukraine?
Non, il ne coupera pas les vivres de l'OTAN. Il place simplement les Européens face à leurs responsabilités. Une Europe qui a vécu dans une sorte de rente sécuritaire et qui aujourd'hui se rend compte qu'elle doit elle aussi faire davantage d'efforts. Et je pense que c'est sur ces divisions apparentes que compte Trump pour faire avancer ses pions et pouvoir imposer ses propres solutions.
D'accord.
Face à une Europe qui est de moins en moins mobilisés.
Mohamed Mboudj, en quelques secondes, Donald Trump a été reçu par Joe Biden pour il était question de passation de pouvoir pacifique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je pense que Biden voulait simplement être sûr qu'il peut raisonner Trump, en particulier avec l'Ukraine. Je crois que c'est un peu le casse-tête, l'obsession de Biden à ce moment-ci.
D'accord.
Et très certainement aussi du conflit donc au Moyen-Orient et essayer de persuader Trump qu'il y a une possibilité de trouver la paix plutôt que de soutenir les faucons israéliens à bout de bras et de faire en sorte que la situation...
Alors, il y a à dire et à redire sur ces nominations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et nos programmes. L'Amérique est au fin de cette édition produite par Michel Joseph. John Linden était à la présentation. Merci d'avoir suivi. Les programmes de VOA Afrique se poursuivent.